RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Le Super Football Show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after. Ravi de vous retrouver comme tous les lundis avec vous au 32-16 bien sûr, pour revenir sur le week-end de Ligue 1, pour se projeter sur la semaine européenne avec la suite des 8e de Ligue des Champions. On ne va rien rater, on va tout vous dire avec nos drôles de dames à partir de 23h. Mais d'ici là, l'actu Ligue 1 avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Salut les amis.
Et Pierre Ducrot. Salut Pierre.
Salut Jean-Louis.
Vous allez bien?
C'est beau quand tu présentes là au début de l'émission.
Oui, on va pas exagérer quand même.
Que, là, si que le plan se resserre et tout.
J'ai passé attention.
Je t'ai trouvé magnifique.
C'est la beauté du maquillage.
On devrait refaire le plan en fait.
Oui, mais
si compliqué. Si on peut le refaire du début, c'est.
Et malheureusement, on n'a pas le budget pour le faire deux fois. On a.
T'as passé un bon week-end de foot.
Ah, c'est comme les ralentis.
Ouais, c'est ça.
T'as passé un bon week-end foot.
J'ai passé un bon week-end foot.
Quel est ton match préféré?
Oui, oui.
Là, c'est vrai, on devrait commencer le lundi soir en disant quel est le match qu'on a préféré.
Ligue 1 ou.
Bah, tout. Le meilleur moment de foot qu'on a eu du week-end, quoi.
Il n'y avait pas de première ligue déjà.
Ouais, écoute, mon match préféré.
C'est pas évident, hein. Moi, ce serait peut-être le. Ouais, celui de Nantes.
Bah, en termes de jeu, franchement, peut-être. Je trouve que c'était pas un grand week-end.
Non, c'est déjà. Pour ça. Mais il y a eu du rythme sur le Nantes-Nice.
Après, ça, le Lille-Lyon m'a fait marrer.
Oui. C'est celui-là où il y avait parce que.
Ah, mais pour de mauvaises raisons.
Oui, mais parce qu'il y a eu, quelque chose de croustillant. Il y a eu un retournement. Mais après, c'est vrai qu'à côté, comme il n'y a pas eu de match transcendant. Après, le sens unique de vendredi soir.
Après, moi, j'ai pas tout vu.
En fait, je vais te dire Lille-Lyon. En fait, ça y est, ça me revient. Je me suis passionné pour la relation Mariano Depay. C'est-à-dire que je regardais tout en détail.
La non-relation.
Non, mais la non-relation, effectivement.
Ils se sont quand même envoyés chez une ou deux fois.
Oui, hein. c'est ça.
Oui, non, mais avec le ballon, je parlais.
Je crois que Depay lui dit à un moment, toi, je te la mets plus, un truc comme ça, à Mariano. Enfin, c'était exceptionnel, quoi.
Ah, tu vois, une fois qu'ils prennent le ballon, ils cherchent quoi faire tout seul, quoi.
Voilà. Et toi, c'était quoi?
Je pense également que celui-là m'a pas mal intéressé. J'avais beaucoup d'espoir dans le match d'hier à 21h.
Ah oui, non.
Et puis non, c'est assez chiant. Et puis dans le PSG Strasbourg, il y a quand même eu 2-3 gestes de grande classe. Et là aussi, il y a eu des trucs à dire, parce qu'il y a Neymar exaspérant, et Neymar génial, la belle ouverture de Pastore. Bon, c'est quand même des gestes de foot, quoi.
Ouais. On va peut-être le faire tous les lundis, ça. On choisit un match comme ça, voilà.
Puis moi, j'ai fait une découverte aussi ce week-end. J'ai pénétré un monde que je ne connaissais pas.
Ah, dis-nous tout.
Ah, le Monopoly.
Ah non, la folie, c'est un monde que je connais depuis des années.
Oui, mais enfin le Monopoly, voilà.
Tu t'es découvert,
France, etc. Quoi.
Non, c'est. Je pensais, bon, dans les journalistes qui se font secouer un peu par l'opinion, évidemment, il y avait ceux du foot, bon, ceux de la politique, j'ai pas trop besoin d'enquêter pour savoir qu'ils doivent se faire secouer aussi. Et j'ai découvert que les mecs qui s'occupaient de bagnoles aussi se faisaient bien démonter.
Ah oui, mais alors pourquoi?
C'est-à-dire?
À quelle occasion?
Parce que pour la deuxième fois de ma vie, je vais acheter une bagnole. C'est un truc que je ne connais pas, moi. C'est un monde qui m'est complètement étranger, oui. Voilà. Donc, bon, forcément, tu fais des choix. Tu vas sur deux. Donc, je sais pas trop où aller, et je vais sur deux, trois sites de comparateurs et tout. Le mec, journaliste qui fait l'article et tout, il fait un classement de bagnole. Putain, il se fait, mais démonter. Moi, je pensais qu'avec le foot, la politique, le mec, comment tu peux dire que cette bagnole est meilleure que celle-là? Comment tu peux critiquer cette marque? Le mec, il s'est fait, mais. Démonter la gueule, je me suis marré, ce jour j'ai passé une heure.
J'ai dit, putain,
je pensais pas qu'il y avait tous les domaines. En fait, je crois qu'il y a tous les domaines. À partir du moment où tu donnes l'expression une expression publique, c'est principalement du négatif qui est mis en avant.
Mais en fait,
c'est très bizarre. Dès qu'un mec exprime un truc, le mec il se fait démonter.
Je pense, Daniel, que sur les réseaux, sur Internet, etc., les gens qui ont envie de crier ou de dire leur mécontentement le font. Ceux qui sont d'accord le font beaucoup moins. Et donc ils ressortent beaucoup plus le côté négatif que positif.
Du coup, j'avais pas du tout avancé, moi.
Oui, t'as
pas trouvé. Tu te recherches et tout.
Si, qu'est-ce que tu cherches? Dis-nous, on va passer une annonce. Si quelqu'un vend sa voiture.
Tu m'as pris d'occasion, déjà, ou de
neuf.
Non,
leasing, l'autre.
Tu peux te faire un petit leasing, c'est intéressant maintenant, les leasing.
Non, d'après mes débuts d'enquête, ça m'intéresse pas.
C'est vrai?
Non, j'ai deux choix, on peut pas dire, c'est des marques, on peut pas dire les marques.
C'est quoi? Il y a des petits ronds.
Non, voitures. On peut pas dire.
Il y a qu'un rond avec une étoile.
On s'en fout.
Pas ceux qui est parti dans ton histoire.
Mais moi, ce qui m'a étonné, c'était ça, c'est de découvrir ce monde-là que je connaissais pas du tout, tu vois.
Qui est finalement très proche du nom.
Voilà, je découvre qu'on peut plus rien dire, quoi.
Non, mais ça non, je déconne. Alors, mais je pensais qu'il y avait des domaines où c'était un peu plus calme, où on pouvait parler calmement, tu vois.
Non, mais si vous avez des conseils,
ça, on peut pas parler calmement.
Si vous avez des conseils, des arnaques à éviter, des pièges à éviter peut-être, ouais, allez-y, hashtag RMC.
Le classement que je regardais, c'est un classement SUV.
Ah d'accord, ouais, voilà. Ah, précis, très bien.
Ah, voilà. Suivez, moi je peux te conseiller la mienne, j'en suis ravi.
Très bien.
On fera ça en privé, Daniel. Oui, ça évitera, non, mais ça évitera les voilà.
J'ai peur qu'en tant que agent et tout, t'aies des moyens et je puisse pas aller sur tes marques.
Non, pas du tout. Mais si, non.
J'ai quand même un doute.
Mais non.
Ah, parce que je vais pas me couper un bras non plus. Hein.
Mais non.
Bon, voilà.
Mais non, tu sers quand ta voiture, toi?
Ben, c'est tout pour ça, j'ai pas trop, tu vois, voilà. C'est pour ça que j'ai jamais, c'est la deuxième fois de ma vie que je vais acheter une voiture.
Ah ouais.
À mon âge, quand même, il y a des mecs, ouais, tu vois, normalement.
Bien sûr.
Deuxième, c'est pour ça que c'est un domaine que je connais pas.
Tout ça a été très intéressant. Voilà. Vraiment. Hein. Mais alors, on va parler
du coup, on avertit Simonet qu'on fera pas l'Italie aujourd'hui.
Oui, on doit annuler quelqu'un. Du coup, bah voilà. Priorité à la voiture de Daniel. Alors, sache, Daniel, je vais raconter quand même ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on me dit dans l'oreillette, il y a eu un but en Ligue 2. Et là, je dis, non, attendez, laissons finir Daniel. Il y a des priorités quand même. Il y a des histoires beaucoup plus intéressantes. But en Ligue 2 entre Quevilly, Rouen et Lens. Christophe Lécuyer, salut Christophe. Oh,
salut
Christophe.
Messieurs, bonsoir à tous. Ouais, je suis pas sûr que le but en soi soit plus important que la voiture de Daniel.
Ah, quand même,
bah, 66 minutes de jeu.
Pas encore, hein.
Bon, vous l'avez compris. En tout cas, c'est un but en soi que j'ai à vous commenter. L'égalisation du Racing Club de Lens à la 62e minute de jeu. Une première frappe de Bellegarde repoussée par Hartog dans les pieds d'Ivan Lendrić qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. C'est assez logique pour des Lensois qui étaient mieux revenus quand même, avec de meilleures intentions sur cette seconde période qui avait été tant bousculée sur la première mi-temps et qui aurait même pu concéder un deuxième but au tout début de la deuxième mi-temps si Jeff Louis n'avait pas vendangé cette balle de 2-0. 66 minutes de jeu ici à Diochon. Un but partout donc entre QRM et le Racing Club de Lens.
Merci Christophe. Dans les matchs en cours, il y a un choc en Allemagne. On en parlera avec David Lorto tout à l'heure. L'Eintracht Francfort mène 2-1 face à Leipzig. C'est quand même le quatrième qui reçoit le deuxième, donc c'est un gros match. Et puis en Espagne, Getafe mène 1-0 face au Celta Vigo. Alors je vous ai pas donné le programme, mais évidemment, on sera donc à l'étranger avec David Lorto, avec Philippe Auclair pour un avis tranché très after, vous comprendrez tout à l'heure. Fred Hermel va nous parler de Guedes, Simone Rovera de Naples. Ça, ce sera le foot européen à partir de 23h. Avant cela, les questions de l'after, l'avis tranché de Daniel sur les supporters. Là aussi, on revient aux sources de l'after.
Oui, pas avis tranché sur les bagnoles. Je le ferai la semaine prochaine quand j'aurai choisi.
Ouais, très bien.
J'ai entre...
Non, on va pas y revenir quand même. Donc, Daniel, tu nous parleras des supporters et des relations entre supporters, ligue, club, la place pour le mouvement ultra. Franchement, on va aborder plein de sujets. Donc, restez avec nous au 32-16.
Enfin, non, je pense que ça méritera une émission. Je veux en tout cas commencer à poser deux, trois questions parce que c'est un dossier qu'on ouvrira bientôt.
Tu feras l'intro.
Parce qu'il faut quand même rassembler
de
des pièces. Pour l'instant, je suis pas encore totalement bien au point.
D'accord, donc on aura le début de ta réflexion, voilà, en fait.
Pas au point sur sa voiture, direct. Pas au point sur le dossier des ultras.
Il y a des moments dans la vie, on se cherche. Je me cherche.
Ouais, c'est vrai que tu te cherches.
Je me cherche.
Alors lui ne se cherche pas, il est au top, il a déjà son avis en tête, c'est Pierre Ducrot, jingle Ducrot.
Mais moi, si je suis coach de Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les couilles.
Ça va bien, c'est une belle introduction.
Non, mais tu sais, alors ça c'est marrant, pour rien vous cacher. J'ai quelqu'un qui m'a et qui compte beaucoup pour moi d'ailleurs, qui m'a passé un petit coup de fil en disant putain, mais tu ne parles pas comme ça normalement, tu dis pas ça, et je me rappelais plus avoir dit ça dans l'émission, tu vois. Bah
alors
bah,
si c'est quelqu'un qui compte, quoi, on va t'aider, c'est un montage évidemment. Pierre ne parle jamais comme ça.
Non,
c'est
parce
impossible.
Qu'il l'a entendu hier en direct, donc on va pas mentir.
Ah oui, non, bah non, du coup,
mais je me rappelais pas quand j'avais pu le dire. Bah voilà. Non, en fait, c'est pas vraiment moi, c'est si j'avais été coach de la Ligue 1.
Oui, mais c'est toi qui utilises l'expression quand même.
Ouais.
Alors, justement, sans te mettre dans la peau du coach de l'Olympique Lyonnais, justement, tu veux parler de Lyon, qui laisse filer 2 points encore ce week-end, donc face à Lens, qui est à 7 points de Monaco, à 6 de Marseille, dans la lutte pour le podium.
Ouais, je voulais en reparler un peu, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé hier, mais pas tant que ça finalement, quand on, à la vue de la stat qui est assez étonnante quand on est l'OL, c'est 1 point sur 12 sur les 4 derniers matchs. Ouais. Ça fait un petit peu peur quand même. Et puis effectivement, souvent, alors tu dis sans te mettre dans la peau de Genesio aussi, justement, je vais m'y mettre. On a souvent ce débat, nous ici, est-ce que le responsable finalement c'est le coach, quoi? Est-ce que c'est Genesio ou est-ce que c'est un autre coach quand on parle d'un autre club? Et donc je me suis arrêté parce qu'hier on n'a pas eu trop le temps d'en parler en profondeur, et je me suis arrêté cet après-midi. Je me suis dit voilà, si j'étais Monsieur Genesio, pourquoi je me sentirais responsable, ou en quoi je me sentirais, ou de quoi je me sentirais responsable, et puis qu'est-ce que je pourrais faire. Le constat, moi finalement, il m'est venu assez vite quand je réfléchis au match de l'OL et à la saison de l'OL cette saison. Le constat, c'est qu'il y a aucun leader dans cette équipe, dans cet effectif, sur lequel pourrait ou sur lesquels pourrait s'appuyer Monsieur Genesio. Ce qui est assez fou, parce que on parle de l'OL quand même, on parle d'un budget très conséquent, qui a les moyens d'avoir ce genre de joueur. On a des bons joueurs. On peut en citer quelques-uns, on peut débattre si on est d'accord, pas d'accord, etc. Mais ça reste des bons joueurs, je pense. Lopez, Ferry, Fekir, Marcelo, Touzard, des joueurs comme ça. Il y a des jeunes talentueux aussi, et pas mal. Ndombele, Mendy, Aouar, Traoré. Mais il n'y a pas un seul mec de 28, 30 ans, qui a de la bouteille, qui a bourlingué à droite, à gauche, qui va mettre tout le monde d'accord. Quand je dis tout le monde d'accord, c'est à un moment donné, si l'OL est à l'envers dans un match, dans une deuxième mi-temps par exemple, ce mec ou ces deux mecs qui sur le terrain peuvent prendre le relais du coach et dire oh les gars, là, on n'y est pas du tout depuis 10 minutes.
Il y a quand même des gars d'expérience dans l'équipe, Pierre. Après, bah, je te dis pas qu'ils disent
d'expérience
qu'ils interviennent.
Morel,
Marcelo.
Normalement, Lopez doit faire partie des cadres du vestiaire.
Sauf qu'on sait que c'est pas du tout son.
Ah non, mais moi je te dis pas qu'ils le font. Je te dis qu'ils devraient peut-être normalement être ces hommes-là. Marcelo, qui a été pris pour ça parce qu'il y avait d'énormes problèmes en défense l'année dernière.
Sauf qu'il
a voulu prendre un taulier derrière.
Je suis d'accord avec toi, sauf qu'il n'est ni technique. Enfin, ni sur le terrain, ni mentalement.
Le club a responsabilisé Fekir en lui donnant le brassard.
Sauf que c'est pas un leader naturel, on le sait tous très bien. C'est un leader technique de terrain, oui.
Et Morel, t'en as parlé, ça fait 4 joueurs après.
C'est pas des leaders. Il faut pas dire qu'il n'y a pas de leader. Ces leaders-là ne font pas le taf.
Si, parce que
Lyon s'est trompé dans son choix.
Si, parce que pour moi, et vous anticipez un peu sur la suite de mon avis, mais pour moi, justement, il y a erreur de casting. Ce sont pas des vrais leaders, ces gens-là, et ces joueurs-là. Malheureusement, ce sont des bons joueurs, mais ce sont pas des leaders. Et on le sait depuis très longtemps. On sait que Jérémy Morel ne peut pas être un leader à l'OL, c'est pas lui qui va afficher une crédibilité à toute épreuve dans un vestiaire comme celui de l'OL et que tout le monde va écouter. Malheureusement, j'ai envie de dire, mais c'est comme ça. Un vrai leader, c'est par exemple quelqu'un qui sur le terrain serait capable de dire à un attaquant, voire deux même, maintenant vous arrêtez vos bêtises, vous arrêtez de jouer tout seul. Parce que nous, ça nous use la tête et qu'on en a marre. Et donc maintenant, vous arrêtez, vous rentrez dans le rang. Je vois pas, messieurs, qui peut le faire aujourd'hui à l'OL, malheureusement. Etc. Voilà, toutes ces choses que font des leaders. On a voulu laisser beaucoup de place à la jeunesse lyonnaise. Et à juste titre, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de talent. Il y a une grosse formation, il y a un objectif, on le connaît. Hein, c'est 75%, voilà, c'est deux tiers d'un effectif qui serait issu du centre de formation. Sauf qu'on a enlevé tous les guides. On a enlevé tous les garde-fous même, parce qu'il en faut. Demander à des joueurs dans la grande période lyonnaise, quand Lyon marchait sur la France, si les jeunes très talentueux de l'époque, Ben Arfa, Benzema, Govou, ont pas été encadrés à un moment donné par des bonhommes. On se rappelle tous de Cassapa, d'Edmilson, de Juninho, j'en oublie plein Chris par exemple. Demander si ces jeunes-là, quand ils bougeaient une oreille, ils n'étaient pas remis à leur place. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui à l'OL. On a eu un mercato d'hiver, au mois de janvier. Il n'y a pas eu une seule recrue du côté de l'OL. Il y a eu Terrier, qui n'est pas là.
Il allait prendre un taulier.
Et puis il y a eu beaucoup de recrues l'été dernier.
C'est pas un mercato de taulier. Le mec va pas arriver en cours de saison pour déjà s'imposer aux autres dans le vestiaire.
Quelqu'un qui pourrait être taulier à l'OL et qui n'est peut-être plus dans un effectif plus fort. Moi, je pense qu'avec les moyens de l'OL, avec les structures de l'OL, son budget, etc., tu peux trouver, moi, je pense.
Moi, je pense qu'à Lyon, ça fait longtemps qu'il y a ce problème. Et en fait, le taulier de ce club, ça a toujours été le président.
Oui, mais
c'est lui qui en fait fait office de taulier en venant remonter
le président
et
le coach, ils sont pas sur le terrain.
Oui.
Et qu'à un moment donné, tu peux pas résoudre les problèmes pour les mecs quand c'est sur le terrain, au moment M où il faut jouer, où il faut changer quelque chose.
Ces dernières années, il n'y avait pas réellement de taulier, c'était en gros le groupe des jeunes anciens.
Les Gonalons, la Cazette,
qui en plus étaient eux là sur le terrain et en gros portaient l'équipe, tout en excluant ceux qui n'étaient pas.
Des mecs
du cru. Et il faudrait également, justement, sur ces années-là, voir si les résultats étaient en phase avec les attentes.
C'est pour ça que
ce dont j'ai toujours douté.
Et c'est pour ça que les vrais leaders, Daniel, ne peuvent pas être des joueurs qui sont issus, même s'ils sont là depuis 4, 5, 6, 7 ans.
Normalement, si, ça peut. Mais si t'as le caractère.
Moi, je pense qu'il faut forcément des mecs venus de l'extérieur à un moment donné. Qui vont apporter autre chose.
Non mais Pierre, ça n'exclut pas qu'un mec, de l'intérieur et un mec formé au club puisse le devenir.
Alors qu'il y en ait un, oui. Mais
c'est une affaire de caractère. Et le caractère, il s'affirme aussi parfois. Si tu fais une comparaison avec l'OM, parce que quand tu parles de l'OL, souvent la comparaison, elle se fait avec Marseille.
Même avec Monaco, tu peux la faire.
Mais si tu prends au début de la saison, Tu mets l'équipe de Lyon et l'équipe de Marseille, il y a plus de valeur intrinsèque à Lyon à ce moment-là. La révélation de la saison, la confiance que vont prendre certains mecs, va faire que les statuts évoluent.
En, ils s'assument en tant que
parce
leader.
Que si tu prends l'OM en taulier naturel,
attends, tu vas quand même plus au départ.
Mais attends, tu vas me dire aujourd'hui que Rami, Gustavo, Mandanda, voilà, sont trois personnalités. Déjà. Mais t'en as un qui revient dans un club qu'il a quitté et entre-temps, donc Mandanda, bah, pas beaucoup joué en Angleterre, revient et doit gagner de la confiance. Donc d'abord.
Oui, mais Steph, dans le vestiaire, s'il dit quelque chose, tout le monde l'écoute.
D'abord, il devait penser à lui.
Oui,
d'abord, je pense pas qu'il soit
c'était
arrivé.
C'était assez évident qu'il allait reprendre ce poste de leader.
Oui, mais d'abord, il fallait qu'il reprenne la confiance, lui.
Oui, lui, sur le terrain, qui, ouais.
Gustavo a probablement un statut, une personnalité pour le faire, mais il arrive dans un club qu'il connaît pas. Pareil, lui aussi partait d'un club et un mec de cette dimension-là n'a pas eu d'énormes propositions. Il s'est retrouvé là un petit peu, non pas par hasard, c'est un super coup pour l'OM. Mm-hmm. Mais il a fallu que lui s'affirme tout seul pour ensuite laisser parler sa personnalité.
Ouais, mais regarde, quand tu parles de Gustavo, ce que tu es en train de dire, c'est que Gustavo, c'est presque pas un miracle, mais c'est un très bon coup de l'OM, parce que justement, il a une crédibilité supérieure à ce que pouvait espérer l'OM,
mais
peut-être.
De la même façon, un Marcelo, pouvait faire la même chose, qu'un Rami, par exemple, qui lui aussi était quand même méga critiqué, plus personne ne croyait en lui.
Ouais, Rami, c'est différent, effectivement. Rami, il a remis tout le monde d'accord.
Ben ouais, mais Rami, tout le monde se foutait de sa gueule, on n'en voulait plus nulle part, même les supporters de l'OM n'en voulaient plus. C'est des mecs qui d'abord ont regagné la confiance, et sont en train de s'imposer dans le vestiaire marseillais. Ça vient aussi de l'ensemble, ça vient aussi de la façon dont est responsabilisé par le coach, et je pense que de ce côté-là, en matière de personnalité, Garcia doit quand même en imposer un petit peu plus que Genesio, qui est toujours, en gros, sous le tutorat du patron, qui va, dans la période actuelle, un peu plus dans le dialogue, je pense, avec ses joueurs, être obligé de redescendre dans l'arène. Ouais. Olas va être obligé de revenir mettre de l'huile dans les boulons.
Alors,
comme
conclut
il le
Daniel,
fait,
on accueille Johan après.
Et c'est d'ailleurs le vrai problème de l'OL, c'est que ce soit toujours lui qui soit obligé de remettre les mains dans le cambouis, et il va être obligé de le faire.
Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, alors ce que tu dis sur l'OM est parfaitement vrai. J'allais te le dire, que et tu peux même faire la même chose avec Monaco, peut-être à une moindre mesure, mais tu peux le faire aussi avec certains joueurs.
Mais Monaco, il y a d'autres personnalités. Problème, Monaco, ça n'a rien.
Voilà, on est d'accord.
Mais
sauf qu'aujourd'hui, le coach de l'OL, puisque c'est lui qui nous intéresse, il y a la question de quoi est-il responsable. Alors c'est peut-être ça, c'est de pas avoir de relais, mais sauf que c'est pas lui qui doit régler ses problèmes normalement. C'est pas lui qui peut choisir. En tout cas, on le sait, à l'OL, c'est pas lui qui choisit complètement les joueurs leaders de son groupe. Il y a qu'une personne qui peut le faire. Ouais, c'est Jean-Michel Aulas. Mais et à un moment donné, il manque ces joueurs-là.
Ouais, mais aujourd'hui,
Genesio va pas te les inventer à l'OL.
Mais aujourd'hui, sa personnalité globalement effacée reprend le dessus après quelques mois où il a semblé vouloir redominer la situation. Là, maintenant, il est en retrait. Il n'arrive pas à s'en sortir avec sa ligne d'attaque. Sa ligne d'attaque, ce sont quand même trois joueurs au niveau de Lyon, recrutés comme trois joueurs stars.
Ouais, sauf qu'on
est en situation d'échec de ce côté-là.
Je voudrais qu'on donne la parole à Johan quand même un moment.
Et
conclut, Daniel.
Dernier mot, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui la mansuétude générale à l'égard de Lyon. Lyon, ce club avec un budget aussi énorme,
c'est surprenant. Un point sur 12, ça ne peut pas arriver normalement à Marseille, à Monaco, à Paris.
Là, c'est le podium qui
Lyon.
Est en péril. Ce serait un énorme échec deux années de suite et rien ne bouge.
Oui,
rien n'est dit,
mais
pas de critique.
Mais je pense,
les supporters lyonnais, rien, parce que comme d'habitude, entre eux, c'est à l'intérieur de la secte et personne ne dit rien.
Allez, sauf que je pense que le problème, c'est que tu ne peux plus rien bouger, c'est trop tard.
Peut-être. On va voir ce qu'en pense Johan, qui nous rejoint, supporter de Lyon. Salut Johan.
Bonsoir l'after.
Bonsoir Johan. Bon, alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que le problème des cadres explique, le manque de cadres explique les résultats du moment?
Alors moi déjà ce soir je suis très en colère parce qu'en championnat on reste sur 4 purges.
Ouais.
On se prend 3 en contre Bordeaux qui était au fond du trou, on s'est fait dévorer tout le match. Contre Monaco on mène 2-0, Subasic se blesse, on joue toute la seconde période à 10 contre 11, on n'est pas foutu de gagner. On se prend 2-0 chez nous contre Rennes et là on fait 2-2 contre Lille. C'est incompréhensible. Alors moi ce qui m'énerve c'est que Lyon a un budget de 230 millions d'euros. Et dans cette équipe, il n'y a pas un joueur qui tient la route. On a une défense centrale, Morel-Marcelo, avec un budget de 230 millions, c'est pas possible de jouer avec une défense centrale Morel-Marcelo. On n'a pas d'ailier, que ça soit Depay, Cornet ou Traoré. ils sont irréguliers au possible. Ils n'ont pas le niveau. Il n'y a aucun ailier. Alors moi, je voulais vous dire que je me pose une question sur le recrutement. Parce que sur les 3 recrues à plus de 20 millions de l'OL, à part Lissandro, il y a eu Depay, c'est un échec. Il y a eu Gourcuff, échec.
Moi, à chaque fois que je mets ça en avant, qu'est-ce que je prends dans la gueule? À Lyon, on travaille parfaitement bien.
Mais surtout, moi j'aurais une question à poser à Johan.
Et Pep Genesio, il est génial. Tout le monde est toujours génial à Lyon et t'as rien le droit de dire.
Moi, je trouve quand même, Johan, et Daniel, tu parlais de la mansuétude autour de Lyon. Moi, je trouve qu'il y a une mansuétude autour de Bruno Genesio. Tout ça parce qu'on l'a critiqué beaucoup au début. Ensuite, il y a eu des résultats.
Tous les jours avec du gars qui sans arrêt l'épargne. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est si clément à son égard. Je comprends pas.
Ça fait partie de notre sujet de divergence. Moi, je pense. Dans une. Le recrutement, tu parles des cadres et tout, Pierre. Dans une équipe qui avance, dans une équipe avec un plan de jeu, dans une équipe où tactiquement tu sais où tu vas. Mais moi, je suis sûr qu'à Lyon, les cadres se seraient révélés.
Et c'est ce que
on en a parlé tout à l'heure.
Comment révéler par la ville
collectivement, moi, la question que je pose, c'est collectivement, comment joue Lyon? Est-ce qu'on a la réponse à ça?
Est-ce que derrière, on sait ta question, tes incertitudes. Mais le souci, moi, c'est que je pense qu'à un moment donné, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est que t'as pas de fond de jeu parce que Genesio n'arrive peut-être pas à passer son message et que le message ne passe pas parce que t'as pas de leader aussi pour le faire passer au sein du groupe.
Et que
chacun fait un petit peu sa petite mayonnaise. Quand on parle de, enfin moi la question que j'ai envie de poser à Johan là, qui fait un constat de ce qui se passe en ce moment à l'OL ou de ce qui ne va pas individuellement avec les joueurs, etc. Ma question c'est, est-ce que tu penses que si t'avais un patron derrière, un patron au milieu, un peu comme ce qui peut se passer à l'OM pour comparer avec l'OM, est-ce que tu penses qu'un Depay se permettrait de faire ce qu'il fait actuellement sur le terrain, ou un Mariano des fois de jouer tout seul? Est-ce que tu penses que ça pourrait changer quelque chose, d'avoir un mec qui pourrait leur gueuler dessus et qui serait légitime pour ça?
Honnêtement, je sais pas. En tout cas, moi, je sais une chose, c'est que sur le recrutement, on n'a pas acheté un bon joueur depuis des années. En défense centrale, on se tape des billes depuis des années. On s'est tapé Boumson, Koné, Diakaté, Rose.
Et on est d'accord que M. Genesio n'est pas responsable de ça.
Le truc, c'est qu'il n'y a pas de fond de jeu. Moi, je suis désolé, Pep Genesio, c'est pas un bon coach. Si on fait tous les matchs contre Paris, on gagne 2-1 à la 93e. Contre Monaco, on gagne 3-2 à la 93e sur un coup franc de Fekir. Mm-hmm. Contre Marseille, on gagne 2-0, mais avec une grande difficulté. Vraiment, je pense qu'on a eu pas mal de réussite sur 6 mois, là. Et je pense que tout s'effondre parce qu'il n'y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas de bon recrutement. L'OL a un budget de 230 millions, quoi.
Je me tue à le répéter régulièrement, c'est énormissime. Si tu prends les clubs dans le monde qui ont un budget pareil, mais tu vois les joueurs, ça n'a rien à voir. On n'est pas sur la même planète, si tu compares.
Moi, messieurs, je serais pas aussi sévère que vous sur le constat. En tout cas, je jetterais pas tout comme ça d'un seul coup à la poubelle, parce qu'il y a eu des bonnes passes aussi de l'Olympique Lyonnais. Mais je pense que cette irrégularité.
Si tu termines pas sur le podium, Pierre.
Non, mais je sais.
C'est ça le sujet.
Non, mais il y a forcément des raisons. Je vais finir. Comment je vais finir juste mon explication. C'est que je n'ai pas envie de tout jeter parce qu'il y a eu des très bonnes passes de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu des très bonnes choses de fait à un moment donné sur le terrain. Sauf que l'irrégularité de Lyon en ce moment. Cette saison, elle a pour moi une raison, c'est que t'as pas 3 ou 4 mecs dans dans cette équipe sur lesquels tu peux t'appuyer.
C'est quoi les bonnes passes de l'OL?
C'est là où on n'est pas d'accord.
C'est toujours la période que j'ai appelée des fameux matchs un peu bizarres, assez incompréhensibles dans le jeu.
Il y a eu des bons matchs de l'OL quand même. Je me rappelle de discours qu'on avait après certains matchs de l'OL.
Il y a eu des bonnes séries, mais
c'était pas mauvais.
Quand les individualités étaient au top, c'est tout. Et pour moi, c'est ça le vrai problème. C'est pas un problème de cadre dans le vestiaire.
Je vous demande la bonne passe d'un point de vue du jeu global.
C'est un problème de fond de jeu global.
Il y a pas que ça, je pense.
C'est quand
je dis pas qu'il y a pas
un match. C'est quand tu gagnes un match contre Monaco grâce à un coup franc dernière minute de Fekir, individualité.
Non, pas forcément, mais
c'est quand tu gagnes contre le PSG, but de Memphis Depay qui tombe du ciel.
Ça c'est assez récent.
Moi je pense que quand les individualités sont moins bien, tu peux te reposer sur un jeu collectif qui permet justement de pas avoir ensuite cette irrégularité sur les résultats. Bon.
Ouais, peut-être.
Johan, merci d'être venu au 32-16. À très bientôt, Johan.
Bonsoir.
Salut. Alors je précise, quand on a parlé de mansuétude, etc., c'est pas des tweetos lyonnais notamment qui sont très influents et qui pour le coup sur Genesio l'ont souvent critiqué, même quand ça marchait bien. On parle un peu plus des médias en général. Hein.
Oui, non, attends.
Mais là, il faut également.
Est-ce que en tribune, il y a des gens qui disent, j'ai l'impression que tout est très contrôlé.
Oui, en tribune.
Tu vois,
oui,
je sais pas, est-ce que ça remue un peu dans l'environnement? Alors que sur
il y a
les réseaux sociaux,
quand même, alors,
Bruno Genesio, que sur les réseaux sociaux,
ouais,
ça se
coule. Il a été pensé quand même, hein. Ou alors, messieurs,
en tout cas, dans les médias, c'est, alors, Lyon, c'est...
Dans les médias peut-être, mais les supporters voient plutôt en priorité leurs joueurs.
On arrête
simplement.
Dans un instant, justement, les tribunes, les supporters, on y va, avis tranché de Daniel Riolo, puis les questions de l'after. À tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Louis Tour.
Avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot, comme tous les lundis, à 23h, les drôles de dames, le foot européen, évidemment, dans cette semaine de Ligue des Champions. Dans 10 minutes, les questions de l'after. D'ailleurs, Daniel, on prendra des nouvelles de la grande prédiction de l'année. Il y a eu Paco Rabanne à un moment. Là,
ouais, on y a quand même un peu cru. Hein.
Là, c'est Pierre Ducrot.
Mais c'est pas fini, messieurs.
C'est pas mort. On prendra des nouvelles tout à l'heure de la grande prédiction. Ouais. Avant la vie tranchée de Daniel, la Ligue 2, Quevilly-Rouen face à Lens, Christophe Lécuyer.
Il reste 2 minutes à jouer ici à Diochon dans le temps réglementaire. Toujours ce score d'un but partout. Je rappelle que Landrich, le Lensois, a répondu à Lefort qui avait ouvert le score pour les Normands. Les Lensois à l'attaque avec un centre qui passera directement derrière le but de Johan Hartog. Une double occasion tout à l'heure pour les Lensois avec Landrich, avec Fortuné qui a mis à contribution justement Johan Hartog. Les Lensois qui étaient tout près là de rafler la mise dans le money time. Deuxième corner consécutif pour les joueurs du Racing Club de Lens. La reprise, elle passera à côté, cette reprise de Djadjadjé qui est entré sur la pelouse tout à l'heure. Il reste 1 minute 30 à jouer dans le temps réglementaire. Un but partout, donc ici à Diochon, entre QRM et le RC Lens.
Merci Christophe. Toujours 2-1
Diochon.
Pour Francfort face à Leipzig en Allemagne.
Bob Diochon.
Et 2-0 pour Retafé face au Celta Vigo. Jingle Riolo.
Les mômes qui viennent, Barça, Real. Même les mômes de 9 ans, j'ai envie de les gifler. C'est dingue ça, ils font quoi les pères?
Quelle violence. Je précise que nous n'incitons pas à la violence sur des enfants dans l'after.
Surtout sur des enfants.
Il faut bien le dire. Oui, après...
Alors, ouais, quand il cherche.
Non, c'est
quoi?
L'éducation en footix. Je comprends pas que les parents cèdent à ça.
Oh, j'ai eu des messages sur ta voiture.
Ah
bon?
Oui.
Enfin, sur sa future voiture.
Bah, on a besoin de plus d'infos. Combien de kilomètres tu fais, etc., pour pouvoir bien te conseiller. Et d'ailleurs, l'hybride est très à la mode. Tu as acheté une hybride?
J'ai pas prévu ça.
Moi, j'ai une hybride. Hein.
Bah, toi, tu fais beaucoup de ville.
Pour l'instant, j'opte entre le sponsor de la Juve et un ex-sponsor de l'Open d'Australie.
Bah, voilà. J'en ai qu'un sur les deux. Mais prends une hybride, sois un peu éco-responsable, Daniel, ça te changera.
Ils sont sponsors de la IO.
Non,
de l'Open de
Saline. Non, il n'y a pas eu Volvo à un moment donné.
Non, il n'y a pas.
Il y a eu qui à l'Open?
Bon, je sais pas, on va chercher, on va trouver
sponsor ça. Sponsor de Nadal aussi.
Allez, Daniel, on y va.
Mais donc, plus sur le sponsor de la IO.
Donc là, tu veux faire un avis tranché, pose de jalon pour un futur débat sur les supporters.
Ah, mais là, c'est fou.
C'est un.
On a le droit de faire ça, parce que moi, comme je suis nouveau dans l'affaire.
Non, mais c'est un.
On a le droit de faire un avis.
Mais écoute,
juste pour poser les jalons.
Écoute,
Daniel,
c'est un meuble dans l'after. Il est là depuis 15 ans. Donc, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui a inventé les avis tranchés.
Bon, d'accord, c'est normal. C'est ce dont on parlait avant. Ce sont des cadres qui.
Voilà.
Bon, d'accord, ok. Je me tais et je suis.
Oui, donc, on a vu ces derniers temps que les Bordelais sont en train de devenir, enfin, les supporters bordelais, sortent de porte-drapeau de. J'allais dire de la lutte, mais en gros, de quelle lutte? C'est ça qu'on comprend pas bien, pourquoi il y a cette espèce en ce moment de résurgence, de cassure entre les différents clubs de supporters et finalement la LFP. LFP tout seul ou pouvoir public? Parce que qui prend les mesures qui dérangent les groupes de supporters? La LFP ou à travers la LFP les pouvoirs publics? Tout est un petit peu flou. On semblait être sorti un petit peu de ces difficultés parce qu'il y avait eu énormément de discussions, même de lois votées, notamment une en 2016, là, avec l'instauration du référent supporter. Mais on sait que c'est toujours délicat, le dialogue avec les supporters, parce qu'on ne sait pas avec qui on parle réellement et si tout le monde est vraiment représenté par ceux qui parlent. En gros, on identifie... y a plusieurs problèmes. Hein. Eux... En gros, les supporters disent c'est tout répressif et il n'y a plus réellement de préventif et de dialogue. Ouais. C'est souvent
en gros,
un peu ce
on
mis
fait
en
des
avant.
Arrêtés préfectoraux, on interdit les déplacements.
Et c'est pour ça que le côté flou autour de quoi entre la LFP et les pouvoirs publics, ça devient de moins en moins flou quand même.
Hein. Et ça tourne autour de quoi
tout de suite les pouvoirs publics.
C'est les déplacements. Alors, je dis à ce stade, parce que bon, les déplacements, il y a oui, on autorise, mais pas vraiment, un petit peu, pas beaucoup. Et puis on maquille un peu ça en augmentant le prix de façon dingue pour les places visiteurs, ce qui fait que les mecs, de toute façon, ne vont pas y aller. Ou, comme ça s'est passé ces derniers temps, où on les a tout simplement empêchés, et ceux qui ont quand même voulu y aller, on les a arrêtés, garde à vue, puis on les a relâchés 3 heures après. Résultat, le climat en ce moment, c'est protestations un petit peu partout, dans chaque stade, banderoles anti-LFP, LFP qui répond pas. Parce que j'imagine qu'elle estime qu'elle a beaucoup répondu à travers certaines réunions, toujours avec des gens qui, pour certains, ne sont pas totalement représentatifs. À l'intérieur de tout ça, autre problème, c'est quand il y a sanctions, il y a ce que j'aime pas là, c'est-à-dire des huis clos, ce qui fait que ça fait des stades vides. Donc ça, c'est aussi un problème. Est-ce qu'on peut punir autrement que par ce biais-là? Parce que bah, on a toujours l'impression que c'est une sorte de petite mort du foot quand le stade est à moitié vide et que les tribunes ne sont pas remplies. Donc clarification sur ce qu'on doit faire en déplacement. Est-ce que ça a déjà été clair? Est-ce que les supporters n'ont pas compris? Ou est-ce qu'il faut reclarifier? Bah, ça, ce serait pas mal. Moi, je veux bien entendre que si le déplacement... ça nécessite des moyens financiers de mobilisation de forces de l'ordre trop importants parce qu'on estime qu'ils ont autre chose à foutre. Pourquoi pas ? Moi, je veux bien tout entendre, mais alors qu'on le dise clairement et qu'on dise, dans ce pays, c'est terminé, il n'y aura plus jamais un déplacement. Mais cette situation floue en ce moment, c'est n'importe quoi, où le maquiller par on augmente les prix et tout, donc bah, il faut le dire. Après, il y a toujours ce problème récurrent qui revient sans arrêt du fumigène. Vous avez vu, récemment, à un moment, bon, on sait que c'est interdit. On n'en voyait plus. Là, maintenant, on commence à en voir à nouveau. À chaque fois, ça occasionne sanctions. Qui dit sanctions une fois, deux fois? Bon, ben, on revient à mon fameux problème du stade vide. Il y a quoi là-dessus? Alors, on sait que c'est une sorte de symbole du mouvement ultra. Donc, on cherche à revenir à la charge en le mettant. Certains disent, regardez, en Allemagne, on a réussi parce qu'il y a des procédés qui, visiblement, ne seraient plus dangereux et permettraient la réintroduction du fumigène. Est-ce qu'il faut se pencher là-dessus et dire, OK, c'est un instrument de fête? On va l'utiliser. Est-ce qu'il faut refaire des réunions, de nouvelles tables rondes, alors qu'il y en a déjà eu? Je sais pas, mais en tout cas, la situation actuelle, là, elle se dégrade. Sans arrêt des banderoles, à plus savoir qu'en faire, anti-ligue, anti-machin, je trouve que c'est pas bon. Donc il va falloir... Ah,
c'est leur moyen de s'exprimer, malheureusement.
Bien sûr, mais moi je dis pas qu'ils doivent pas s'exprimer,
ils en ont plus d'autres.
Quoi. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir se remettre à table à nouveau et régler ça. Si les supporters estiment les différentes associations, parce qu'il y en a plein, c'est toujours très difficile de savoir qui sont celles qui valent le plus, estiment que en pas en Angleterre justement parce que c'est le modèle dont on veut pas, mais si en Allemagne on estime que bah ça fonctionne, bah se pencher une bonne fois pour toutes sur le dossier pour voir en Allemagne, parce que il y a pas d'autre modèle finalement.
Daniel,
le modèle italien.
Ouais,
échec.
Alors attends,
Espagne,
attends,
c'est très particulier. Et Angleterre, ils n'en veulent pas.
Daniel, faire un mixte. Nous faisons une petite pause dans cet avis tranché.
Bah, j'ai fini.
Fort intéressant. Bah t'as fini, ça tombe bien. Pierre va pouvoir réagir, mais juste avant, on file en Ligue 2. Quevilly-Rouen, Lens, Christophe Lécuyer.
Ah oui, avec une fin de match complètement folle ici, et le Racing Club de Lens qui arrache la victoire au bout du bout du temps additionnel. Le corner frappé par Kevin Fortuné, la tête de Clément Chantôme qui saute plus haut que tout le monde.
Dans Clément Chantôme, mais qui devient fort, Chantomas,
qui offre la victoire au Racing Club de Lens. Victoire évidemment importante pour les 100 et or ce soir ici en Normandie. Des Lensois qui étaient menés au score suite à l'ouverture du score signé Lefort à la 30e. L'égalisation de Landrich à la 62e et Clément Chantôme donc pour le but de la victoire à la 90e plus 3. C'est un vrai ouf de soulagement pour le RC Lens qui prend véritablement ses distances sur la zone rouge. Zone rouge qu'occupe toujours en QRM ce soir.
Merci Christophe. Bonne soirée à Clément Chantôme qui est juste le successeur de Pierre Ducrot. Milieu de terrain, formé au PSG. Et
lui
tout,
aussi à un moment a été un chouchou pas bon, Clément.
Il n'est
Chantôme.
Pas la comparaison. Ah oui, oui.
Sauf que lui, après, il a eu des attitudes, des comportements que toi, t'as pas eu. Toi, t'es resté clean.
On va en reparler, mais.
Toi, il est trop fort pour être un chouchou pas bon, c'est ça?
Non, Pierre. Non, ce que je veux dire, c'est que, enfin,
au parc,
il a toujours été adoré au parc.
Ah oui, mais parce que c'était un gars du club. Généralement, ces mecs-là ont des statuts, mais après, bon.
Non, mais j'ai, on lui a pas
dit. Il a quand même gâché sa carrière, le gars. Il a fait des choix qui étaient aberrants.
Non, ou alors, c'est que j'ai toujours pas compris le principe du chouchou pas bon, mais il a jamais été critiqué au PSG. Par les supporters du PSG.
Non, mais pourquoi des critiques?
Bah parce qu'on m'a dit que le chouchou pas bon, c'est quelqu'un sur qui on avait tapé un petit peu.
Non, mais qui fait pas partie des meilleurs. C'est le gars qui fait pas partie des meilleurs.
Mais
fois.
Non, mais j'ai l'impression que c'est un truc.
Mais non, mais
c'est un truc
qui est rigide sur le principe.
Mais
oui,
pour
lui,
moi, c'est rigide tout court, Daniel. Tu le sais.
Bon, alors, repartons sur les supporters.
Ouais, parlons pas du chouchou pas bon. On fera une émission spéciale. Chouchou
mais attends, Chantôme, il s'est gâché en même temps. Il n'avait peut-être pas le niveau pour être si fort.
À un moment, si boss,
c'est le symptôme formé au PSG. On te donne des responsabilités vides, donc on est persuadé que tu seras un grand joueur. Mais après.
Non, bah, écoute. Alors, ouais, en 2013, il est titulaire un paquet de fois. Mm-hmm. C'est pas le plus naze le soir à Barcelone dans le match du 1 partout. Je crois même qu'il doit jouer le match aller, le 2-2.
Moi, pour l'avoir vécu.
Non, je suis pas un crack, mais je pense qu'il doit pouvoir faire mieux, plus d'accord. que de se retrouver à Lens aujourd'hui. Ouais. Excuse-moi.
Moi, pour l'avoir vécu, le problème quand t'es comme ça formé au club et que tu t'en sors très bien au PSG, et notamment dans ce rôle-là de, ou de milieu défensif, ou de défenseur, tu vois, où t'es un peu un joueur besogneux avec de belles valeurs, parce que c'est des valeurs que moi j'adorais défendre.
Oui, voilà, bien sûr.
La générosité, etc. Mais où t'as pas un bagage technique, voilà, supérieur à d'autres joueurs de Ligue 1, à un moment donné, quand t'es plus au PSG ouais. avec des joueurs très forts autour de toi,
ouais, c'est vrai,
bah,
c'est
tu deviens plus le même joueur ailleurs.
Ouais, bah, c'est
moi,
ça.
C'est ce que j'ai vécu.
T'as été habitué à être, ouais,
bien sûr. Alors, c'est là la différence.
C'est vrai. Messieurs, revenons à la vie tranchée de Daniel sur les supporters. Donc Daniel a soulevé pas mal de questions. Pierre, qu'est-ce que tu veux ajouter?
Ouais, j'y répondrai pas moi ce soir là. C'est trop, bien sûr que c'est trop compliqué et que ça mérite forcément pas une table ronde, mais plein de tables rondes entre les différents acteurs. Moi j'ai même plus l'impression que ce soit flou au niveau de la répression. Moi j'ai l'impression que c'est les pouvoirs publics maintenant qui ont pris ça en main et puis qu'on fait plus trop de détails quoi. Voilà, au lieu d'essayer d'arranger les uns et les autres pour créer effectivement de belles ambiances dans les stades, etc. D'essayer d'entourer des déplacements de supporters qui peuvent être parfois compliqués à entourer. Bah, on a décidé plutôt de tout interdire, le tout répressif qu'on voit en ce moment. Mais c'est un constat, on n'invente rien. Donc voilà, les solutions, c'est déjà de réinstaurer un dialogue qui n'existe plus du tout. Voilà pourquoi on a des banderoles de plus en plus souvent et de plus en plus longues dans les tribunes, avec des messages. Bientôt, on n'aura plus le temps, on n'aura plus suffisamment de 90 minutes pour le lire, le message, tellement c'est long maintenant. Mais parce que les groupes de supporters n'ont plus d'autres moyens que celui-là pour que ce soit vraiment visible. Alors oui, ils peuvent faire parfois des interventions dans les médias, mais pour que ce soit visible lors d'un match de foot de tous les acteurs du football. Bah c'est ce moyen-là, voilà. Donc à part une vraie volonté de la Ligue et des instances de renouer un dialogue et de créer quelque chose, mais pour ça il faut vraiment qu'il y ait une volonté de le faire, qu'ils aient envie de revoir des stades pleins avec pourquoi pas quelques fumigènes de façon maîtrisée, pourquoi pas des, je sais pas, autre chose.
On va prendre l'avis de Romain Pierre, ouais, qui nous rejoint au 32-16. Salut Romain. Ouais.
Bonsoir tout le monde, vous allez bien?
Ça va, bonsoir, très bien. Va. Romain, supporter de Marseille, donc on l'entend sur le bonsoir.
Exactement.
Qu'est-ce que tu veux rajouter à ce qu'a dit Daniel et Pierre?
C'est vrai que c'est quand même un débat qui prend de plus en plus d'ampleur et c'est quand même déjà quelque chose de dommage parce qu'on ne devrait pas parler de nos supporters dans ce sens-là. Et puis la première des choses que je trouve très dommageable, c'est qu'on aime communiquer sur le fait qu'on a des tribunes où il y a de l'ambiance, on aime communiquer sur le fait que quand on vient à Marseille, ben vous pouvez demander à tous les supporters de France et tous les joueurs. Je ne pense pas faire du chauvinisme en disant que c'est une des plus belles ambiances de France, mais tout ça, on sait que, voilà, que ça a un coût, que ça prend du temps, et il faut penser aussi que quand on sanctionne des supporters, bien évidemment que la faute est constatée, mais on sanctionne une minorité. Le petit pépé qui n'a pas les moyens de se payer un abonnement à 500 euros à Jean Bouin ou à Gagné au Vélodrome, qui va payer son abonnement 160 euros en virage, il va s'asseoir tranquillou sur le côté du virage, et on va le priver d'un match sur deux pour quelques personnes qui ont sorti des fumigènes. C'est ça déjà qui est dommageable. J'ai l'impression que la sanction, elle tombe automatiquement, et comme vous le disiez très justement, sans aucun dialogue, et on n'a pas trop bien l'impression de comprendre. Et ça, on l'a tous vécu étant enfant, quand c'est un délai, qu'on n'a pas l'impression de comprendre pourquoi, on n'a qu'une envie, c'est de refaire la même chose. Alors que si en face, il y a un dialogue et que la personne ne nous déçoit pas, on n'a pas envie de la décevoir. Si la Ligue disait, voilà, on va vous aider pour les typos, qu'est-ce que vous comptez faire? On peut peut-être aller mettre la main à la poche.
Moi, je suis d'accord avec toi, Romain. Il faut qu'à un moment, les mecs disent clairement ce qu'ils veulent. Comme ça, au moins, après,
exactement.
Voilà. Est-ce que tu as vu, tu étais au Vélodrome hier soir?
Oui.
Tu as vu la banderole qui n'a pas été montrée, évidemment, à la télé parce que c'est interdit.
Moi, je vous dis la vérité.
Tu veux que je la lise, Romain, ou pas? Tu veux que je lise la banderole?
Vas-y, lis-la.
Donc Romain, écoute, je me réunis tous les jeudis soirs par le biais d'une commission. Je prétends vouloir remplir les stades alors que je les vide de leurs vrais supporters. Je mets la pression au pouvoir public et aux clubs. Les clubs, je les rackette. Je vais même jusqu'à les punir quand ils ne remplissent pas la tribune face caméra. Je les incite à bafouer la liberté d'expression dans leur stade quand des messages sont offensants, quoi. Et d'ailleurs, ce soir, j'ai dit aux diffuseurs télé de ne pas filmer ces phrases. Voilà, je pense que les supporters.
C'est pas mal de vérité. Hein.
Ouais, non, les supporters de l'OM hier ont été assez bons.
Assez bons
là-dessus pour relayer globalement le message que beaucoup pensent, ouais.
Ça, Daniel, c'est la banderole que tu as lue, c'est celle des ultras, mais il y en avait aux fanatiques, il y en avait aux Dodgers, il y en avait aux MPP.
Oui, moi je lis celle-là parce que ça, on vient de me l'envoyer, Romain, je sais pas les autres, ouais.
Et vous savez, moi, ce qui m'impressionne le plus, et je pense que toi, Daniel, c'est assez rigolo de faire ça. Je parlais la dernière fois, justement, du joueur de l'équipe adverse qu'on aimerait posséder, par exemple à l'OM, il y a cette petite solidarité. Vous avez vu l'impressionnante solidarité entre supporters quand même, entre ultras, les messages, les banderoles, les gens qui se défendent. C'est là où on voit quand même que ce qui nous unit tous, c'est la passion du football. Alors bien après, sûr. On a tous nos clubs, mais comme c'était dit hier sur votre antenne, quand il y a un WNBSG, quand les Parisiens ils arrivent dans le stade, nous on se régale à les insulter, à les regarder, à se chambrer, mais parce que ça fait partie du jeu. Ouais. Ça veut dire on s'envoie pas des couteaux, c'est pas non plus, on n'est pas comme dans certains pays, alors je veux pas faire de clichés, mais on n'est pas en Serbie, on n'est pas dans
ces pays-là. Romain, je vais aller dans le même sens que toi, pour avoir été joueur, il y a rien qui te fait plus, je vais pas dire le mot parce que c'est pas beau à la radio, que de jouer, alors soit à domicile effectivement quand t'as la chance à domicile de jouer dans un stade plein,
soit
à l'extérieur où t'as des stades comme le Vélodrome, comme Lens, comme Saint-Etienne, où effectivement on t'attend et on te hue et on te crie, parce que pourquoi, quand tu joues c'est ce qui te fait vibrer, et vous supporters c'est ce qui vous plaît aussi.
Romain, merci d'être venu au 32-16. On va continuer quelques secondes la discussion puisqu'on a pas mal d'appels au 32-16 sur le sujet. On va donner la parole notamment à un supporter de Bordeaux dans quelques secondes. À tout de suite dans l'After sur RMC et sur BFM Soir.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Louis Tour.
L'after est là avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, à venir les drôles de dames, les questions de l'after. Je vous ai donné les scores ce soir, avec notamment la victoire de Lens 2-1 sur le terrain de Quevilly-Rouen. À noter, en Angleterre, Manchester City est sur le point de se faire éliminer sur le terrain de Wigan.
C'est fou ça.
Wigan qui évolue en Ligue 1, il me semble, donc c'est 3ème division. Un but de Will Grigg. Vous vous souvenez, pendant l'Euro, Will Grigg on fire, le joueur nord-irlandais. Voilà, c'était magnifique.
Ok. Oui.
Et donc c'est lui qui est sur le point d'éliminer Manchester City.
Il est toujours on fire.
Exactement. Alors, sur l'avis tranché de Daniel sur les supporters, il faut rétablir le dialogue entre toutes les composantes des supporters, la Ligue, les pouvoirs publics, les clubs. On est avec Anthony, supporter de Bordeaux, au 32-16. Salut Anthony.
Ouais, salut messieurs, ça va?
Très bien, et toi?
Ben, ma foi, ça va pas trop mal.
Alors, qu'est-ce que tu veux ajouter à toute notre discussion là?
Alors écoute, moi je suis...
Tu n'as déjà pas un bon téléphone, visiblement. Alors, vas-y, comment? Réoriente-toi bien, là ça a l'air mieux.
Ouais, c'est mieux là?
Vas-y.
Donc moi je suis un peu partagé. Alors bon, au niveau de la Ligue, ça n'engage que moi, mais je pense qu'on a effectivement une brochette de guignols. Mais les ultras, j'arrive pas trop à cerner en fait leur combat, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement les ultramarines ont fait quand même pas mal de démarches, et on l'a vu à Strasbourg, on l'a vu à Marseille. Ok, mais par contre, je vois pas de solidarité en fait. C'est bon, ouais. Alors je l'ai vu au niveau de quelques banderoles. Alors effectivement, il y a les ultra-marseillais. Et après, c'est seulement entre guillemets les amis des Bordelais, c'est-à-dire Saint-Etienne, Bilbao et le Bayern. Mais après, je vois pas de solidarité avec cette idée-là que les ultras essayent de défendre au mieux. Mais j'ai pas l'impression que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est de bonnes comment dire, c'est de bonne facture en fait d'avoir une cible privilégiée et d'essayer d'entretenir ça et d'entretenir ce flou un petit peu autour de ça. Alors après, je suis un peu dans ce sens-là où je suis un peu partagé, mais au niveau de la Ligue, on a pu voir hier ou avant-hier, je crois, c'était en Allemagne, le match Mönchengladbach contre Dortmund. Il y a eu 5500 supporters adverses.
Oui, oui.
Et moi je me dis que quand il y a 48 Bordelais qui vont à Marseille et qu'il y a 6 bus de CRS pour les accueillir à 20 km de Marseille, je me dis que franchement il y a un gros problème. Alors soit la Ligue n'assume pas.
Mais après, les Bordelais étaient interdits de déplacement aussi.
Oui oui, tout à fait, mais enfin je veux dire, après on se plaint, oui, il y a pas assez de policiers tout ça, mais enfin tu déploies pas non plus 6 camions de CRS pour 48 gars. Ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que soit la Ligue, elle est en accord avec elle-même et elle dit « Nous, on ne veut plus d'ultra et ça sera comme ça et au moins c'est carré et on sait où on va. » Et les ultras, pareil, il faut que ça soit carré aussi de leur côté. On peut pas avoir les banderoles qu'on a vues hier à Marseille par rapport aux ultramarines et puis d'un autre côté, avoir la même solidarité pour les mêmes convictions et les mêmes idéologies. C'est pas possible. Oui. Et pour moi, c'est pas cohérent. Voilà.
Donc, ok. Bah, écoute, ton message est passé, Anthony. En tout cas, merci d'être venu le partager. Et franchement, reste bien avec nous dans l'after, puisque Daniel le disait, en préparation, une grande émission.
C'est seulement un
grand after.
C'est seulement un teasing aujourd'hui.
Voilà, exactement. Daniel. Comme l'after sait les faire sur les supporters. On passe aux questions de l'after. Tout de suite. Bah alors la prédiction, où en est-elle, hein? Question toute simple. Pierre Ducrot doit-il maintenir sa prédiction? Pierre nous avait annoncé que Nice terminerait dans le top 5 au moment où ils étaient 18e.
J'aimerais juste que vous me respectiez un tout petit peu. Oui. C'était pas une prédiction.
Il avait un sentiment que.
Bah oui, j'avais déjà observé les choses.
Ils sont 6e et il l'a dit quand ils étaient 18. Quand même.
Et laissez-nous nous marrer un peu. C'est quand même basé sur certains faits, sur certains arguments réels de la connaissance.
Je pense que son pari est déjà gagné.
Non, mais d'accord.
Parce que prévoir que Nantes allait rester comme ça.
Là, je vais intervenir. Non, mais on n'est pas là à dire Nice. Pierre, c'est pas bien, ses analyses, c'est pas bon, etc. On a envie de sourire en disant, en imaginant Pierre avec sa boule de cristal en train de faire une prédiction.
Et voilà. Hier, s'ils battent Nantes,
il faut une deuxième mi-temps
de merde. Ouais. Mais vraiment, ils s'écroulent.
Bon, là, ils sont 9e.
Ils sont dans le wagon.
J'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est. Je sais pas, il se passe plus rien dans cette équipe en fait. Je crois que même Favre est usé, il a plus tellement.
Ah, moi je pense qu'ils vont aller.
Je pense qu'il a envie de partir, il a envie de retourner.
Je pense qu'ils vont aller au bout.
Quand un mec veut autant partir comme cet été, que tu le retiens.
Mais
que
non,
tu
sinon ils auraient pas réussi à remonter comme ils l'ont fait. Ça montre bien qu'il est encore dedans et tout. Alors, moi je suis derrière l'oracle, je suis avec toi Pierre. Sache-le.
Bon, en même temps ils ont que 4 points.
Mais oui, ils sont là. Et tu sais quoi ? Peut-être que tu as raison pour l'envie de départ de Lucien Favre. Peut-être, c'est possible. Mais je vois bien cet homme-là faire le taf bien comme il faut jusqu'au bout avant de partir.
Messieurs.
Voilà.
Ah oui,
dimanche,
tu vois.
Dimanche, c'est PSG-OM. Mais c'est aussi Lyon-Saint-Etienne. Est-ce que le favori.
D'ailleurs, c'est fou de faire ça le même jour, non ?
Bah, c'est bien, comme on va se régaler comme ça.
Ouais, mais bon, ouais.
Ça te plaît pas ?
Bah, je sais pas.
T'aimes bien faire ton gros match, remettre une semaine.
On en a pas tant que ça à chaque fois, tu vois. Donc,
Moi, ça me dérange pas. Non, mais alors ma question, c'est.
J'aurais fait un autre bon match à 21h un dimanche.
J'ai ma question.
Je serais très loin pour voir ces matchs. Donc je serais.
Est-ce que finalement le favori de ce match, ce n'est pas Saint-Etienne ?
Ah, donc, Monsieur Tour, qui a une agence de à Londres, il nous refait le coup du favori.
Mais j'ai une agence de bookmaker. Voilà. J'ai ouvert une agence de bookmaker.
Mais si t'as envie de jouer, tu vas parier, tu nous lâches avec les favoris.
Book Tour. J'ai ouvert mon agence de bookmaker en une semaine.
Oh là là.
Il m'a donné des idées.
Quel favori de quoi?
Ouais, c'est compliqué.
Bon,
c'est
est-ce que la meilleure équipe des deux, ce n'est pas Saint-Etienne?
Non, est-ce que la meilleure dynamique d'équipe en ce moment, c'est pas celle de Saint-Etienne?
Est-ce que Saint-Etienne n'a pas plus de chances de gagner ce match que Lyon?
Elles sont toutes un petit peu plus nulles que les autres, que la précédente.
Non, mais il y a encore quelques semaines, on aurait eu la certitude que Lyon pouvait encore une fois gifler Saint-Etienne. C'est moins le cas là, oui. Je pense que Saint-Etienne a beaucoup plus d'armes pour emmerder Lyon en ce moment sur la période.
C'est une question de dynamique.
Même si, attention, Saint-Etienne, il gagne le match. C'est pas terrible ce qu'ils produisent. Hein. Ils sont plus solides défensivement, ok. Mais encore une fois, dans la grande tradition stéphanoise, qui est le meilleur homme sur le terrain ?
Ruffier.
Effectivement, ils peuvent les faire chier dans le sens où s'ils sont solides comme ça et que Lyon n'est pas plus efficace que ces dernières semaines.
Et comme Lyon n'aime pas en ce moment les équipes bien solides,
ça peut puer le nul qui arrangera pas Lyon en tout cas.
Messieurs, est-ce que... Alors, je vous ai entendu hier dans l'after, dire Adil Rami...
Donc, si ton agence de bookmaker, je vais mettre un gros billet sur le nul, dimanche, entre ces deux équipes.
Compris. Oui. Voilà. Très bien. Bah, ça arrange pas mon agence de bookmaker, parce que c'est la plus grosse cote et ça fait trop d'argent à te donner. Mais bon, bref, on en reparlera après. Donc, je vous ai entendu hier dans l'after placer Adil Rami, en gros, dans le top 5 des défenseurs centraux de Ligue 1. Hein, voilà, j'ai bien aimé ça. Et je voulais... Non, mais t'inquiète pas. Je voulais introduire la suite.
On fait les émissions pour toi, pour te plaire.
Hein. Oui, j'ai
beaucoup aimé. Dans les défenseurs de Ligue 1, il y en a trois sont dans le même club.
Ma question, c'est où place-t-on Alphonse Areola si on fait comme ça un top 5, un top 10 des gardiens de Ligue 1
question, alors, Est-ce que c'est pas comme ça, ta question.
Ah bah, je la tourne comme je veux, mon petit gars.
Non, on va dire la vérité aux auditeurs. C'est ta question sur le mail qu'on a reçu.
Partie du top 10 des meilleurs gardiens. C'est la même chose, top 5.
Oui, c'est vrai que c'est à peu près pareil. Pierre.
Ouais, oui. Top 10, moi je trouve ça très...
Là, tu chipotes. Hein,
ouais, je trouve ça très sévère.
Tu chipotes, Robert.
10. Ah bah, tu peux me dire, oui, bien sûr, il est dans le top 10, c'est une évidence. Moi, je pose la question, après chacun
10,
est libre.
Dans le top 10, pour moi, oui. Oui.
D'accord. Daniel.
Non, mais la question est vicieuse dans le sens où gardien au PSG et ailleurs, c'est pas le même travail.
C'est toujours la même chose quand on parle des gardiens.
Donc, Areola, dans beaucoup de clubs de Ligue 1, il serait top. Et peut-être que la pression inhérente à ce club fait que il soit fébrile comme ça. Je sais pas si sur ses qualités propres, il a.
Je sais même pas si c'est une question de fébrilité, ailleurs. Daniel. Je crois que c'est une question de quand t'as 15 ballons. Enfin, tous les gardiens de Ligue 1 n'ont pas 15 ballons par match, mais quand t'as, c'est une façon d'extrapoler un petit peu. Quand t'as 15 ballons et que tu fais une petite mauvaise chose. Mais que les 13 ou 14 autres sont très bonnes, on se rappelle plus de la petite.
Et là, c'est tout. Les grands gardiens de Ligue 1.
Là, c'est tout. C'est qu'au PSG, la petite chose qui fait mal Ruffier. Sur les deux choses qu'il a à faire, ça se ressort beaucoup plus.
Ruffier, jusqu'à preuve du contraire, c'est le gardien de Saint-Etienne.
Anthony Lopez.
S'il est si fort que ça, c'est ce que je dis tous les ans. Effectivement, il est bon quand il a beaucoup de travail et 40 arrêts à faire. Mais s'il était si bon que ça, il serait pas encore
à Saint-Etienne. Moi, le meilleur, c'est Anthony Lopez, cette saison.
Ah, non.
Ah, il est fort, non.
Moi, j'aime aussi. J'aime beaucoup aussi. Très, très fort. J'avais pas mal de doutes sur lui. Et je trouve qu'il fait sa meilleure saison.
Oui, enfin.
Bah voilà, c'est tout.
Je sais pas.
Tu me demandes, je te réponds.
Dans l'histoire récente des gardiens de Lyon, Hugo Lloris est parti dans un club européen, il joue la Ligue des Champions.
Ah mais la question n'est pas Hugo qui fera la meilleure carrière Hugo Lloris, parmi les 10 derniers gardiens de Lyon. Le meilleur pour moi de cette saison,
en Ligue 1, ça veut peut-être dire que cette année on n'a pas grand-chose. Mandanda fait également une bonne saison, mais
il est parti pour changer, il n'a pas marché. Qui est meilleur que lui? Qui est meilleur que Lopez? Posons-nous la question.
Non, c'est vrai. Subasic n'a pas une saison de dingue. L'année dernière, il avait été bon. Non, il n'y a pas. Non.
Allez, messieurs, on s'arrête là pour les questions de l'after. On n'a plus le temps et on enchaîne avec nos drôles de dames dans quelques secondes. On fera dans cet ordre-là Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne. On va se régaler, à tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot.